Le journal Estelle Caméraire.
Bonjour à toutes et à tous. La France continue de larguer de l'aide humanitaire à Gaza aux côtés de différents pays. Nous irons en Jordanie au départ des avions de transport militaire au début de ce journal. Depuis 48 heures, une large opération de sauvetage est en cours au Chili. Après un effondrement dans la plus grande mine de cuivre souterraine du monde, 4 personnes ont été localisées à 900 mètres de profondeur. En France, c'était un moyen de transport disparu depuis le début du XXe siècle. Les bateaux-bus font leur grand retour sur la Saône depuis un mois, au plaisir des touristes, mais aussi des Lyonnais. La France poursuit ses largages d'aide humanitaire sur Gaza. L'enclave est menacée, selon l'ONU, de famine généralisée. Depuis avant-hier, 2 largages français ont été faits avec des produits de première nécessité envoyés par l'armée, mais aussi l'armée belge, italienne ou britannique. Ces largages vont se poursuivre encore aujourd'hui. Paris prévoit une 3e cargaison dans la matinée. Boris Loumagne, vous êtes actuellement en Jordanie avec Martin Troadec. C'est de là que partent les C-30 français qui emportent chaque jour avec eux environ 4 tonnes de vivres.
Nous sommes actuellement à quelques encablures d'une base militaire française située à 1 heure de route de la capitale jordanienne. C'est de ces plaines désertiques dont nous sommes entourés que s'envolent les gros porteurs français, les C-130. 2 vols ont déjà été effectués hier et avant-hier. 8 palettes, ce qui équivaut à environ 8 tonnes de vivres déjà larguées. Alors difficile de savoir ce qu'il y a exactement dans ces palettes puisque c'est l'armée jordanienne qui les livre déjà emballés aux militaires français. La Jordanie qui est vraiment au centre du dispositif, puisque c'est elle qui détermine les plans de vol. C'est elle aussi qui indique les lieux de largage, avec un défi majeur, éviter les gros rassemblements de population au moment du largage, éviter les mouvements de foule ou les accidents quand les palettes atterrissent. Pour l'instant, l'armée française nous indique que les 2 premiers largages se sont bien déroulés, pas d'incident à signaler.
Des largages dénoncés par les ONG qui jugent ces méthodes trop coûteuses et trop dangereuses. Sur les réseaux, des Palestiniens se filment en train de récupérer des sacs de farine dans la mer, inutilisables. Depuis la France, les écologistes appellent Emmanuel Macron à déployer la marine nationale pour apporter de l'aide humanitaire à Gaza et lever le blocus humanitaire imposé par Israël depuis 5 mois. Une demande faite dans les colonnes de la Tribune dimanche. Les écologistes estiment que la France doit être le moteur d'une coalition internationale. Et depuis plus de 48 heures déjà, au Chili, une opération de sauvetage est en cours dans la plus grande mine de cuivre souterraine au monde, El Teniente. Jeudi soir, un éboulis a fait 2 morts et 9 blessés. 4 travailleurs sont toujours portés disparus. Ils se trouvaient à 900 mètres de profondeur lorsque l'accident a eu lieu. Plus de 100 personnes sont mobilisées pour tenter de les retrouver. Les précisions de notre correspondante au Chili, Naïla de Rouané.
À l'extérieur de la mine, les photos des 4 disparus sont accrochées sur un drapeau chilien. Ce mineur, la voix tremblante, témoigne au micro de la chaîne de télévision nationale.
On sortait de la mine quand nos collègues, eux, entraient. C'est aux infos qu'on a appris qu'ils avaient été piégés suite à l'accident. On attend un miracle et que tout se passe bien.
Les autorités savent où se trouvent les 4 ouvriers, mais aucune communication n'a pu être établie avec eux. L'opération de sauvetage est lente et délicate car le secteur a été endommagé. Andrés Musik, directeur général de Codelco, l'entreprise publique qui gère la mine.
On a dû changer la méthodologie. On ne creuse plus avec des machines manuelles, mais avec des machines commandées à distance pour protéger nos équipes de secours.
Selon Codelco, l'éboulis serait dû à un séisme enregistré dans la zone. Mais des ouvriers dénoncent des négligences et disent avoir senti des mouvements sous terre il y a plusieurs jours déjà. Le président Gabriel Boric s'est rendu sur place.
Pourquoi cet accident a eu lieu? Qui est responsable? Les familles auront besoin de réponses. Mais pour l'instant, toute notre énergie doit se concentrer sur le sauvetage.
Il s'agit de l'accident minier le plus grave depuis 2010, lorsque 33 mineurs avaient été ensevelis dans une mine au nord du Chili. Tous avaient été sauvés au bout de 69 jours. Lors d'une opération historique.
Après 5 jours de pèlerinage, le jubilé des jeunes s'achève ce matin à Rome. 500 000 jeunes catholiques venus du monde entier sont réunis après une arrivée en grande pompe pour la veillée des prières hier soir. Dans une heure, le pape Léon XIV célébrera la traditionnelle messe organisée tous les 25 ans par l'Église. Nous y reviendrons dans le journal de 9h. C'était l'une des annonces de François Bayrou pour rétablir l'équilibre des comptes publics, combattre la fraude sociale. Catherine Vautrin détaille ce projet de loi dans Le Parisien. La ministre du Travail propose notamment de débiter le compte bancaire d'un fraudeur et renforcer les contrôles. La fraude sociale est estimée à 13 milliards d'euros selon la responsable. Le Parlement doit examiner le texte à l'automne. Les bateaux-bus font leur grand retour, un moyen de transport pourtant disparu au début du XXe siècle. Les bateaux naviguent sur la Saône depuis un mois et font partie du réseau de transport en commun de la ville de Lyon. On les appelle les Navigones et ils font un tabac avec plus de 35 000 voyages sur cette ligne depuis sa mise en service. Elle attire des touristes mais aussi des Lyonnais qui redécouvrent leur ville. Mathieu Bonnour.
Une longue file de voyageurs attend l'arrivée du bateau. Son nom, le Vaporetto. Clin d'œil à Venise.
Bonjour, bienvenue. S'il y a du monde, bah vous pouvez aller vous installer puis valider dans 2 minutes.
Sergio, le capitaine, accueille les passagers. Un simple abonnement ou un ticket spécial permet de monter à bord. Départ en douceur, 15 km/h maximum sur la Saône.
Il y a des moments où on se dit, mais c'est bien, je suis payé pour faire ça, avec un cadre de travail comme ça.
À l'intérieur du bateau, du bois un peu partout. À gauche, dehors, les jolis immeubles du Vieux-Lyon.
Ça fait partie de ces bonheurs de tous les jours, de ces petites choses qui font que le travail est agréable.
Les voyageurs regardent tous à travers les fenêtres. Certains ont la chance d'être à l'extérieur, comme Christophe, en vacances.
On est quand même mieux là, on a de l'air, on a la luminosité, on voit les façades. En camp métro, on voit un tunnel noir. L'approche est totalement différente en souterrain et en plein air. C'est jour et la nuit.
Cheveux au vent, lunettes de soleil, Francine, lyonnaise, des étoiles dans les yeux.
C'est extraordinaire. Une sensation de liberté et on redécouvre les quais. Et puis plein de choses, c'est vraiment top. C'est une très bonne idée. J'espère que ça a perduré d'ailleurs.
Et oui, le service va même se développer pour passer de 2 à 4 bateaux au printemps prochain, avec un passage toutes les 15 minutes en heure de pointe.
Un mot sur le temps, des nuages sur la partie nord, mais de belles éclaircies sur la partie sud. Les températures, elles restent douces, 17 à 26 degrés dans la matinée. C'est la fin de ce journal, réalisé par Alex Forgeau, 8h07 sur France Culture.